Alors nous voici avec notre invité, Armando Uribe. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu n'as aucun accent chilien parce que tu es arrivé à 13 ans en France.
Oui, et qu'en plus je parlais français avant. En fait, j'ai toujours été dans le système scolaire français, ce qui est pas du mérite, c'est normal. Donc.
Mais tu es un grand connaisseur de l'histoire chilienne que tu as vécu toi aussi à travers ta vie et ta famille. Et en vivant à moitié à Paris et une bonne partie de ton vie professionnelle au Chili, tu es un témoin et de l'économie et de la société.
Oui, en fait, c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt vécu une bonne partie de ma vie personnel et professionnel en France, en fait à l'étranger, hors du Chili. Il m'est arrivé d'avoir la chance de vivre au Chili pendant 5 ans. Je suis retourné en France donc là début 2018, donc j'ai vécu de 2012 à 2018 là-bas et pu constater de très très près quelle est cette réalité chilienne à la fois sociale, économique, politique et puis naturelle. C'est un pays magnifique, c'est un très très beau pays, mais qui est un pays organisé pour une toute petite élite. Qui, ça a été dit récemment, tous ces jours-ci, lorsqu'on évoque le Chili, c'est une toute petite élite qui a un 1% qui capte plus de 33% en fait la richesse produite au Chili, ce qui est un des cas les plus flagrants d'inégalité au monde. Je crois que le Brésil fait un tout petit peu pire, mais le Brésil, c'est près de 165 ou 167 millions d'habitants. Le Chili est un petit pays de 18 millions d'habitants. Et donc, moi, je dis toujours, c'est plutôt un petit pays de 18 millions de pauvres. Les riches, on les compte sur le doigt de quelques mains, comme ici autour de cette table.
Quelques doigts coupés.
Oui, et quelques doigts coupés.
Oui.
Et donc. Comment on a pu arriver à un tel captage des richesses? C'est pas un hasard, on le sait bien, c'est le poids de l'histoire.
C'est historique, oui. Non, c'était déjà comme ça quand le Chili était encore une colonie espagnole. Hein, donc le Chili a été découvert par les Espagnols. Les Espagnols sont plutôt arrivés au Chili où il y avait déjà des gens. En 1540, c'était le dernier pays conquis par les Espagnols. Et ça a été l'os le plus dur pour les Espagnols puisque ça a été une frontière de guerre permanente où l'Espagne a dû maintenir en fait une armée active pendant toute la colonie jusqu'à l'indépendance en 1818 et pendant tous ces siècles il s'était formé d'abord une aristocratie espagnole puis créole puis locale qui est devenue une élite ou une oligarchie qui maintient aujourd'hui encore. Donc, plus de 200 ans après l'indépendance du Chili, quasiment la totalité du pouvoir économique, pouvoir politique aujourd'hui, puisque c'est cette même classe qui est au pouvoir aujourd'hui au Chili, pouvoir militaire, et pouvoir social, pouvoir religieux. Donc, dans le social, c'est la pression de l'Église. Voilà.
Et ce pouvoir-là a réussi, malgré plusieurs révolutions, plusieurs élections, à se maintenir. Et sans refaire toute l'histoire, on peut partir de 1970 et 1973.
Alors, de 1970, de 70 à 73, le gouvernement de Salvador Allende, c'est une bizarrerie dans l'histoire chilienne. Une bizarrerie qui avait déjà été tentée en 1891, ça avait fini comme une guerre civile emportée par l'oligarchie et par la droite. Il y a eu des tentatives au début des années 30. Le Chili est un des trois pays au monde, dans le monde occidental, avec la France et l'Espagne, qui ont connu un front populaire. À peu près dans les mêmes années, un peu plus tard au Chili, ces choses-là arrivent, toujours avec un décalage d'un certain nombre d'années en Amérique. Et donc un front populaire où il y a eu donc une apparition du peuple, en fait, comme corps social et corps politique. Et ce qui est devenu donc évident et flagrant en 70 à l'élection de Salvador Allende, c'est que c'était un sujet politique de plein droit et avec les pleins pouvoirs politiques et sociaux pour la première fois. Et c'est ça qui était probablement insupportable à l'oligarchie chilienne et qui a fait qu'ils ont décidé, avec l'aide et l'amitié des Américains, de faire un coup d'État et d'installer de nouveau leur pouvoir pendant donc 17 ans de dictature, de 73 à 90, et puis lors de la récupération de la démocratie, de maintenir tout ce qu'ils avaient obtenu et développé sous cette dictature. Je rappelle aussi que cette dictature a été l'occasion d'installer pour la première fois dans le monde occidental ce modèle qu'on connaît désormais tous du néolibéralisme à outrance, enfin, c'est de l'ultralibéralisme de la dérégulation générale. Le Chili est le pays qui connaît ça jusqu'à aujourd'hui, la privatisation générale de tous les services publics et donc un État devenu subsidiaire, constitutionnellement subsidiaire, c'est-à-dire que le Chili a dans sa constitution inscrit l'idée que l'État doit être le plus petit possible et tout ce que ne peut pas faire le privé. L'État peut le faire, mais l'État n'a pas le droit d'intervenir donc dans la réalité économique, sociale, etc. C'est ce qui a donné aujourd'hui donc au bout du processus et par écrasement progressif et long de toutes les classes moyennes et populaires, donc une sorte de ras-le-bol et de cris dont on peut plus. Il faut qu'on en sorte.
Alors on en sort, mais on peut peut-être finalement dire ce mot, c'est-à-dire que la dictature a mis en place une dictature par la force militaire, ça a un petit peu disparu, un petit peu, on peut dire. Par contre, elle a maintenu...
Non, ça a disparu. Oui, ça a disparu. On ne peut pas dire que ça a un petit peu disparu. Non,
ça a disparu. Par contre, elle a réussi par l'organe économique et par la loi, et même la Constitution, à maintenir cette différence entre citoyens.
Oui, ce qu'on appelle la dictature militaire, en fait, était une dictature civique et militaire. Donc il y avait des civils derrière les militaires, il y avait des économistes de l'école de Chicago, des élèves de Hayek et de Friedman. Donc Friedman est allé de nombreuses fois sous Pinochet au Chili et a célébré le triomphe de ses idées pour la première fois, donc dans la réalité. Et puis petit à petit, avec Mme Thatcher à plus tard, et Ronald Reagan, ça s'est répandu dans le monde entier, mais le Chili était le premier pays où ça se produisait. Donc ça a été très très radical. Alors les militaires ont installé, enfin ça a été installé par des civils, par des économistes, ça n'a pas été installé par les militaires. Les militaires n'ont aucune idée d'économie, ni du reste d'ailleurs. Donc ça a été installé grâce à un pays maintenu sous une coupe, mais sous une botte militaire très très dure, avec des disparus, des exilés, des torturés, enfin des morts de très très nombreux, et une impossibilité d'avoir de la presse quelconque, une impossibilité de réunion, etc. Ça a duré 17 ans et la sortie de cette dictature à partir de 90 a été aussi très dure, puisque les militaires tenaient encore des parties très importantes du pouvoir. Pinochet était sénateur à vie. Il y a eu un moment, une transition de peur, de la crainte, de la terreur, en fait, pendant, je dirais, quasiment les 10 premières années de ce qu'on a appelé les gouvernements de la concertation. Et donc, après, tout ça a été de la gestion de l'existant, et en essayant d'ajouter un petit peu de social par-ci, un petit peu d'aspirine par-là, sur les douleurs très très vives qui se manifestaient au fur et à mesure. Ce qui se passe aujourd'hui au Chili, c'est une grande explosion sociale, et n'est pas la première. Ce n'est que la dernière d'une série d'autres qui s'étaient déjà produits par le passé, les plus récentes étant les lycéens en 2006, les étudiants en 2011, juste après les grandes manifestations, les gigantesques manifestations contre le système des retraites, des pensions privées, les gigantesques manifestations sur la situation faite aux femmes au Chili, etc. Donc ici, on est. C'est pas une chose nouvelle, c'est pas une chose inconnue. C'est curieux que tout le monde le prenne comme une surprise, qu'il n'avait pas vu venir, mais en réalité, c'était quelque chose qui se préparait depuis fort longtemps.
Mais pourtant, toute la population n'est pas anti-système, voire même certains ont un regret de la période Pinochet.
Oui, dès 89, donc 89-90, les élections qui ont terminé avec la dictature, on voyait que le pinochetisme, pour l'appeler de manière simple, recueillait à l'époque, c'était 44% des voix des votants. Aujourd'hui, On calcule que c'est entre 35 et 40, mais ces 35 et 40% des votants, c'est quand même beaucoup, c'est une proportion considérable. Il y a cet aspect aussi historique au Chili d'amour de l'autoritarisme, hein, et d'amour de la force. C'est ce qui explique ça s'explique par cette histoire de pays caserne, pays en état de guerre permanente, de guerre interne permanente, qui est hérité donc de la colonisation espagnole.
Alors, on va écouter une autre artiste, elle plus jeune, Ana Tijoux. Elle est fille de parents chiliens exilés lors du coup d'État de 1973, ce qui fait qu'elle est née à Lille, elle a vécu à Paris. Elle a découvert seulement à 6 ans le Chili, elle s'est réinstallée au Chili, elle est revenue souvent en France. Elle est connue dans toute l'Amérique latine et on va écouter un rap engagé. C'est un peu l'hymne de la révolution en cours, de la révolution en action au Chili, avec des millions de vues sur le web, comme on dit. Je vais vous laisser dire le titre.
Cacerolazo.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos.
Despierta, renuncia, Piñera. Pola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo y escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tabaco no y frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Macarena Valdés, Numa FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, Numa era clavitud.
Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena que no estamos piola. Miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo,
cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo,
cacerolazo. Como se dice, lo que viene es alienígena. Que viene
en... Ah, sí, sí, no nos quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta, dispara, asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento.
Lo más importante, como se dice, lo más importante es la cabeza fría. La cabeza fría.
No hay cabeza fría y cabeza
muy,
fría.
Muy, muy fría.
No hay cabeza
muy
fría,
grave.
No hay cabeza
muy
fría,
grave. Que el genuino que te eleje. Que el genuino que te eleje.
Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et on poursuit avec Armando Uribe, qui nous expliquait un peu l'historique du Chili. Et maintenant, voyons le constat aujourd'hui. On peut prendre quelques exemples sur cette privatisation à outrance. Par exemple, l'éducation.
Oui, où conduit en fait ce système de dérégulation, ce système non régulé, puisque c'est ça le ce qu'on appelle le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme. Donc c'est la disparition de l'État dans des activités qui sont historiquement des activités de service public, notamment donc l'éducation, la santé, les transports, les pensions, les retraites. etc., etc. Enfin, au Chili, on est allé très très loin, puisqu'on a privatisé des... Bon, les routes, c'est un classique. En France, on commence à connaître ça. Les routes, les aéroports, les infrastructures en général. Mais l'éducation est un cas particulièrement tragique, puisque le Chili, depuis les années 30, la cause de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'existence d'un front populaire, il y avait eu l'installation et le progressif développement d'une école primaire publique, gratuite et obligatoire, de très grande qualité. Le Chili avait formé des professeurs, des instituteurs, on appelle ça les professeurs normalistes au Chili, des instituteurs de très grande qualité, très, très polyvalents, très très riches, une formation très, très 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 riche, et qui ont formé donc des générations de gens absolument de tous les milieux, et donc les issus des paysans, du milieu paysan, du milieu ouvrier, du milieu petit commerçant. Enfin, c'est ce qui a fait, qu'est-ce qui a créé en fait les classes moyennes intellectuelles au Chili, qui n'avaient jamais existé en fait auparavant. Les intellectuels chiliens étaient toujours issus des élites. Il y avait une ou deux grandes écoles publiques, grands lycées publics, l'Institut National et l'Institut Barros Arana. Il y avait une université publique de très grande qualité. Et tous les actuels, toutes les personnes d'aujourd'hui entre 60 et 80 ans ont tous étudié gratuitement et sont tous devenus des grands professionnels. Aujourd'hui, les étudiants sont tous condamnés à s'endetter, et à s'endetter pendant très longtemps. Les étudiants sont endettés pour 20 à 30 ans en payant leurs études, en finançant leurs études par des crédits. Qui les laissent, donc c'est des crédits usuriers, hein, qui les laissent endettés pendant plus de temps que nécessaire, le capital ayant été payé relativement vite, entre 5 et 10 ans, et ils sont à payer pendant une dizaine d'années ensuite des intérêts. Même l'université publique, même l'université du Chili publique est payante aujourd'hui au Chili. Elle est simplement subventionnée pour un certain nombre d'étudiants. C'est ce qu'avait réussi à installer la présidente Michelle Bachelet en réinstaurant un certain type de gratuité, mais sans revenir en fait à la gratuité de l'institution. Donc voilà, ça c'est un exemple grave. Un exemple encore plus grave, aussi grave, c'est la santé qui a été très, très largement privatisé. Le système d'hôpitaux publics existe encore, mais totalement définancé. C'est-à-dire qu'il est très difficile dans le système public, malgré la qualité des personnels, de trouver parfois du coton, une aiguille, etc. Ils sont dans un état de précarité très avancé, état de précarité qui est maintenu pour pouvoir éventuellement reprivatiser derrière, si les circonstances s'y prêtent. On est en train il y a tout un programme de construction d'hôpitaux publics qui vont être en fait des hôpitaux publics privés, plutôt privés que publics d'ailleurs. Enfin, il y a ce genre de schéma. Les transports, c'est une chose très flagrante. Le Chili est un très très long pays qui fait plus de 4000 km de long, même si il est très étroit, c'est en moyenne 150 à 200 km de large. Mais il y a les principales villes du Chili sont toutes installées soit en bord de mer, soit dans la vallée centrale, qui est une vallée centrale qui a quasiment 4000 km de longueur. Il était très logique que ce pays est un chemin de fer très développé. Il y a eu un chemin de fer autrefois, il a été totalement abandonné. C'était un accord conclu entre l'extrême droite chilienne sous Allende, qui avait fait une grève des transports des camionneurs, financée par les Américains, on le sait aujourd'hui, en faveur aussi de compagnies de transport de passagers dans lesquels la famille de Pinochet et quelques militaires avaient des intérêts personnels. Et donc jusqu'à aujourd'hui, les Chiliens pauvres se transportent en bus avec pas mal d'accidents, et les Chiliens riches se transportent en avion. Il y a des compagnies désormais privées qui relient quasiment toutes les villes du pays. Voilà, c'est quelques exemples. L'endettement On parlait des endettements des étudiants, mais l'endettement est général au Chili. Les salaires sont extraordinairement écrasés vers le bas. Et tout le Chili, sauf donc cette classe privilégiée très très étroite, vit à crédit. Et vit à crédit et reprend des crédits pour payer les crédits. Et aujourd'hui, je pense... Alors, on se demandait toujours, en vivant au Chili, on se demande pourquoi ça n'a pas explosé avant, mais parce que les gens avaient encore accès à du crédit. Je pense qu'on est arrivé au bout, peut-être, de cette capacité de crédit ou de cette capacité à rembourser les crédits déjà engagés. Et les gens disent stop.
Et ils disent même... Les Chiliens sont dans la rue, ils sont tous regroupés en manifestation, en chant, prêts à essayer de faire changer la société, mais ils ne sont pas seuls dans la rue. Il y a une répression dont on n'a pas idée ici dans nos médias français.
Oui, les carabiniers, comme on les appelle là-bas, c'est une police militarisée, en fait, au Chili, qui dépend néanmoins du ministère de l'Intérieur, a pris l'habitude sous la dictature, mais habitude qu'ils ont gardée jusqu'à aujourd'hui et même avant donc ces manifestations de ces 10 derniers jours, de réprimer de manière très violente, de disperser en fait les manifestations de manière extraordinairement violente. J'ai eu l'occasion de voir là-bas à de nombreuses reprises des manifestations très pacifiques, des petites marches d'un endroit à un autre qui étaient systématiquement dispersées avec des camions à gaz et des camions de dispersion avec de l'eau qui est mêlée avec des produits chimiques, c'est très irritant. Les Chiliens, donc c'est très très les carabiniers chiliens sont très entraînés. Là-dessus, ils ne savent pas faire autrement. Alors, ils pourraient avoir des instructions pour faire autrement, mais il se trouve que là, en 10 jours de manifestation, quasiment 3 semaines de manifestation aujourd'hui, on a 23 morts officiellement reconnus par l'Institut national des droits de l'homme. Et les groupements de médecins disent qu'il y en a beaucoup plus qui n'ont pas été déclarés. On a 175 personnes qui ont perdu un œil pendant ces manifestations, un peu comme en France, avec des LBD. On a de très 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 nombreux blessés. On a des gens qui sont battus quasiment à mort, bastonnés directement avec des bâtons. Il y a des personnes violées, des arrestations parfaitement arbitraires, des gens enlevés de chez eux. Des disparus qui reparaissent, pas tous. Enfin, il y a une ambiance de répression sauvage et démesurée qui nous rappelle tous de très 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 mauvais souvenirs. Ça ressemble sacrément à ce qui se passait dans les années 80. C'est exactement ce qui se passait, sauf que à l'époque il y avait encore une dictature militaire et à l'époque les gens étaient égorgés. On n'a pas vu encore apparaître des corps de gens enlevés et égorgés ou torturés sauvagement. Torturés sauvagement, on les voit, mais pas à mort encore. Il y a heureusement une réaction des corps intermédiaires, des avocats, des juristes, des médecins, des jeunes étudiants en médecine, etc., qui tous se rassemblent et disent que ça ne va pas se passer comme ça s'est passé autrefois. Des magistrats même qui ont déclaré que ça ne se passera pas comme ça s'est passé, puisque le système judiciaire chilien sous la dictature était parfaitement honteux. Il dit, bon, cette fois-ci, on va juger, on va chercher, on va aider. Mais la force publique porte bien son nom. C'est une force armée et contre une population totalement désarmée. Il y a des parlementaires, des maires d'extrême droite aujourd'hui qui appellent quasiment les gens à s'armer, ce qui est très inquiétant. Et on ne sait pas où est-ce que ça va nous conduire. Nous sommes tous inquiets. On pensait au tout début, autour du 18, 19, 20 octobre, que ça pouvait s'arrêter relativement vite, ce mouvement de manifestation. Ça ne s'arrête pas, ça ne prend que de l'ampleur. Et ce qui est positif, parce que ça nous conduit très probablement à des changements fondamentaux dont le Chili a besoin, mais nous sommes aujourd'hui devant une situation d'abus des droits de l'homme qui est effrayante. Et on a besoin d'une pression internationale très forte pour ça.
Donc 3 semaines de manifestation avec cette police en face, et pourtant c'est tout le Chili qui est dans la rue.
Tout le Chili, dans tout le Chili, la rue, les gens sont dans la rue. Alors est-ce que c'est tout le Chili? Il y a des gens qui ne sortent pas, mais on voit dans les images, les très 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 nombreuses images qui sont publiées dans les réseaux sociaux. On voit des vieilles personnes, on voit des jeunes mamans, on voit des gens qui n'étaient pas du tout politisés, qui sont dans la rue aujourd'hui. On voit des petits commerçants, on voit absolument tout le monde. Des professeurs, d'autres jours, il y a une manifestation importante de nounous, de puéricultrices. Des jardins, des crèches, et qui a été réprimée de manière féroce, comme si les puéricultrices étaient des dangereuses terroristes. Et donc, je crois qu'on peut dire que tout le Chili, de manière très transversale, est dans la rue aujourd'hui.
Donc avec des revendications, et puis l'espoir d'un changement, et cet espoir est possible ?
On ose le croire. On voudrait tous y croire, c'est-à-dire de pouvoir pousser le gouvernement à ce qu'il se plie à un plébiscite posant la question d'une nouvelle constitution, et pour cela il faut faire une loi, il faut écrire une loi qui demande un quota de voix au Parlement et à l'Assemblée et au Sénat relativement important, mais on devrait pouvoir l'obtenir. C'est la voie idéale. S'il y a un plébiscite pour une nouvelle constitution, il sera gagné, parce que, étant donné la situation actuelle, et si cette constitution est engagée, le plébiscite porterait sur 2 questions. Voulez-vous, oui ou non, une nouvelle constitution? Et quel mécanisme pour cette nouvelle constitution? Le mécanisme souhaité le plus généralement, c'est une assemblée constituante.
Et une constitution qui remettrait un État, qui permettrait les privatisations, qui permettrait de spolier tous ces riches?
On va voir. Ça, c'est de la lutte politique postérieure. On ferait de la politique fiction sans se lancer à imaginer ce qui pourrait se passer dans une assemblée constituante où la droite sera nécessairement présente. Et la droite d'abord ne veut pas de nouvelle constitution et ne veut pas d'assemblée constituante. Donc on a un grand pas à franchir auparavant. Mais qui remettrait une nouvelle constitution qui redonnerait à l'État une capacité d'agir, en tout cas, capacité d'agir, ça veut dire aussi sortir des abus les plus flagrants. La privatisation de l'eau, par exemple, le Chili est le seul pays au monde qui a privatisé l'eau et qui l'a donnée gratuitement à des privés, et lesquels la font payer désormais, la captent, etc. Et donc l'eau, l'électricité, tout au Chili, le gaz, enfin absolument tout a été privatisé, comme on voit les choses arriver petit à petit en France. Mais nous sommes au Chili, nous, dans une situation post-triomphe de l'ultralibéralisme, et lorsqu'on voit en France ce genre de choses s'installer petit à petit, on peut imaginer, nous savons déjà à quoi ça conduit, j'espère qu'on n'en arrivera pas à cela ici.
Donc on ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait bien ce que Macron nous répète finalement, c'est dérégulation, privatisation des aéroports, c'est des phrases qu'on vient d'entendre.